lundi soir à Arras, à La Tria, se déroulait une soirée débat organisée par le mouvement européen Pas-de-Calais. Les thèmes: euro, dette, croissance, emploi, quelles solutions européennes? Sujet vaste et pas forcément facile, d'ailleurs ça n'a pas déplacé les foules lundi soir, mais la soirée avait le mérite d'ouvrir la discussion. Dommage cependant que sur 2 heures de débat, la salle n'ait pu poser que 3 petites questions. On reviendra justement sur ces questions. Dans ce sujet, on vous propose d'écouter quelques extraits de ce débat. On va commencer avec Denis Badret. Il a été, de 1995 à 2011, sénateur sous l'étiquette UDF puis Modem.
J'ai été, et j'en suis très fier, et ça m'a beaucoup marqué pendant 7 ans, jusqu'à il y a quelques semaines, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'Assemblée de Strasbourg, qui réunit des représentants des 47 pays de la Grande Europe, autour des principes fondamentaux qui sont à la base de la construction européenne, que sont l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Et c'est du Conseil de l'Europe que dépend notamment la Cour européenne des droits de l'homme. Donc j'ai beaucoup travaillé à Strasbourg. Et pour moi, c'était important parce que je ne conçois pas qu'on construise l'Europe uniquement pour en faire un tiroir caisse. L'Europe, c'est d'abord un trésor d'idées, c'est d'abord un projet fondé sur les valeurs. C'est très important et c'est pour servir les valeurs que nous apprenons à travailler ensemble dans la vie quotidienne et que nous apprenons à faire un marché unique, avoir la même monnaie, etc. Mais l'objectif, on ne doit jamais l'oublier, c'est les valeurs. Et c'est dans cet esprit que le fond du débat actuellement, c'est que je ne voudrais pas que l'Europe apparaisse aux yeux des Européens comme l'instrument de la rigueur. Pour que ça ne soit pas l'instrument de la rigueur, il est essentiel qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'oublie pas d'essayer de refonder le projet et de rappeler aux Européens, par un exercice de démocratie, par un exercice de retour aux sources, de rappeler aux Européens quelle est la finalité profonde de l'Europe. Sinon, l'Europe, ça sera la rigueur et ça sera rejeté par les Européens. Donc il y a un enjeu fondamental ici qu'il ne faut pas oublier en ce moment. Dans le même ordre d'idées, j'ajouterais que un État on va parler de souveraineté partagée ou de souveraineté perdue aux yeux de certains, un État qui est en faillite, un État qui est dans la main de ses créanciers, n'a plus de souveraineté. Je ne sais pas où est la souveraineté de la Grèce. Les souverains en Grèce, c'est les créanciers de la Grèce. C'est pas les Grecs. Donc il faut aussi relativiser les choses. Donc dans tous les domaines, il faut aller vers plus d'intégration européenne et plus d'intégration autour du sens du projet européen qu'il faut retrouver, réexpliquer, représenter à nouveau. Dans ce contexte, et j'en viens maintenant directement aux questions que vous posez, je pense que la première chose que l'Europe doit faire, c'est de ne pas sortir sans arrêt des directives qui empêchent les entreprises d'entreprendre. La deuxième chose à faire, c'est quand elle envoie des crédits d'aide structurelle aux pays, ça peut être un poison terrible pour les pays, dans la mesure où les pays sont obligés d'accompagner, ils sont obligés de sortir eux-mêmes, principe d'additionnalité, un cofinancement, et ça peut les noyer. Donc il faut faire très attention à cela, et je pense que l'attitude des différents pays d'Europe, la situation des différents pays d'Europe est très différente. Nous avons chacun des atouts qui sont différents les uns des autres et il faut que chacun puisse jouer ses atouts. Donc le principe de subsidiarité, laissons faire au maximum localement ce que localement on peut faire et ça sera très bien. Et je pense que dans le contexte actuel, il faut rappeler ça sans cesse. Il ne faut pas oublier la discipline budgétaire partagée. Les budgets nationaux, le budget européen, c'est très peu de choses à côté des budgets nationaux, mais la discipline, la mutualisation de la surveillance sur les budgets nationaux, qui est le fait des parlements nationaux, on peut toute une série de dispositions pour relancer l'initiative, l'innovation, pour relancer le marché unique. Il faudra se donner des disciplines fortes pour mettre en œuvre ces directives, pas du genre de celle des principes de Lisbonne de 2001 sur l'innovation, qui était une espèce de concertation renforcée, mais qui ne représentait rien et qui n'a jamais incité personne à faire quoi que ce soit. Donc il faut arriver à quelque chose qui soit plus solidaire, qui est à nouveau plus d'intégration européenne. Et pour que ça marche, on va revenir, et je termine là-dessus, sur la relation entre les parlementaires européens et les parlementaires nationaux. Jusqu'à présent, là j'illustre très concrètement le propos, les parlementaires européens considèrent en général que l'Europe c'est eux, que les parlementaires nationaux ils sont bons pour s'occuper des affaires locales et subalternes. Les parlementaires nationaux considèrent que les parlementaires européens n'ont aucune légitimité puisqu'ils sont élus dans des conditions qu'ils ont coupées soigneusement de leur base. Donc on s'envoie à la figure des amabilités de ce genre qui n'ont aucun intérêt et qui sont nuls. Mais ça a un inconvénient, c'est que le parlementaire national de base emboîte le pas des chefs d'État de base, des ministres de base en disant que si on passe, c'est de la faute de l'Europe. Donc ils n'ont pas, ils ne sont pas incités à participer à la construction européenne comme ils devraient le faire au même titre que les parlementaires européens dans le cadre de leurs responsabilités de parlementaires nationaux. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Il faut que les marchés financiers, notamment, n'imaginent pas un instant qu'ils vont pouvoir nous faire exploser. Donc il faut restaurer la confiance. Mais au-delà de ça, sur la discipline partagée, la souveraineté partagée en matière budgétaire, j'insiste sur le fait que les budgets nationaux, c'est le principal instrument de souveraineté. Le jour où je perds mon budget, je n'ai plus la maîtrise de mon budget, c'est que je ne suis plus souverain. Et là, on va être obligé, par le système, par la crise, et finalement, on va être obligé d'accepter de partager la souveraineté budgétaire. C'est un geste formidable dans l'histoire de la construction européenne, et c'est ça qu'il faut réussir. Donc il faut vraiment inventer un système dans lequel les parlementaires nationaux apprennent à partager la souveraineté sur les budgets nationaux, le Parlement européen soit porteur de l'intérêt commun qui nous incite à faire cela, et qu'à ce moment-là, le Parlement européen d'une part, les parlements nationaux d'autre part, puissent dialoguer pour mettre en évidence les capacités qu'auront l'intérêt commun et les intérêts nationaux à être complémentaires et à faire en sorte d'être le bon instrument pour l'Europe de demain, dans un système démocratique, contrôlable, lisible par les citoyens, etc.
Voilà pour un premier extrait du débat qui se déroulait lundi soir à Arras, à Latria. On écoutait Denis Badret, donc ex-sénateur Modem. Les autres intervenants de ce débat étaient Luc Doublé, le patron entrepreneur de Doublé SA. D'ailleurs, on a vraiment eu du mal à comprendre ce qu'il faisait là, tant il n'avait pas grand-chose à raconter, à part le fait qu'il aime les usines. Les deux invités retardataires, du fait de l'alerte à la bombe en gare d'Arras, donc c'était Claude Fischer, qui est président de l'association Confrontation Europe, et Mariano Fandos, qui est secrétaire confédéral CFDT, qu'on écoutera tout à l'heure. Et puis il y avait aussi la locale de l'étape, Hélène Flautre, députée européenne Europe Écologie Les Verts. On écoute une partie de son intervention sur la crise des dettes publiques.
C'est-à-dire qu'il y a eu un objectif qui a été assez clair tout de suite, c'est qu'il ne fallait pas se mettre dans une situation d'éclatement de la zone de l'euro qui mettait en péril le projet de l'Union européenne elle-même. Mais comment cela s'est-il fait ? Cela s'est fait par des décisions court-termistes, dans l'urgence, au coup par coup, et sans perspective d'avenir qui soit vraiment crédible, avec des contreparties imposées qui sont extrêmement sévères, voire intenables pour les populations. Quand on pense, par exemple, qu'en Grèce, il y a à peu près 200 milliards d'euros détenus par des Grecs fortunés qui échappent totalement à l'impôt, on se dit tout de même qu'il serait assez judicieux que l'autorité de l'Union européenne, les exigences de l'Union européenne en échange de l'aide à la Grèce, soit conditionné par une capacité de lever l'impôt d'abord sur les citoyens grecs les plus fortunés qui placent leur argent. Donc 200 milliards, c'est un an du PIB grec, donc c'est pas rien du tout, évidemment. Et cela n'a pas été fait, ce qui rend la conditionnalité de ces aides extrêmement injuste, d'autant que la base de décision est faible. C'est-à-dire qu'on a là, au fur et à mesure des réunions d'urgence qu'on ne compte plus, des sommets de la dernière chance qu'on ne compte plus, on a un rétrécissement de la base démocratique des décisions qui sont prises. Et ça, c'est un grave problème de crédit et de légitimité, et donc de confiance des citoyens, qui d'ailleurs renvoient ça immédiatement. Les mobilisations aujourd'hui à travers toute l'Europe, en Espagne la semaine dernière, contre finalement les mesures imposées, sont extrêmement réelles. Alors c'est vrai qu'au départ, il y a un problème avec la zone euro, c'est qu'on fait une monnaie unique pour empêcher les marchés de spéculer sur les monnaies nationales. C'était ça au début, et ça a plutôt assez bien marché. Mais on n'a pas regardé que les marchés financiers, totalement dérégulés, allaient spéculer sur les dettes. Et finalement, on se retrouve avec des États dans la zone euro très largement endettés, et pas seulement la Grèce, puisqu'on a vu assez rapidement et l'Irlande et le Portugal et puis l'Italie. Finalement, des États qui sont en train de maintenir, et c'est ça, je crois, qu'il s'agit maintenant d'adresser comme question politique prioritaire pour l'Union européenne, de maintenir sous perfusion d'endettement, en ayant recours à une industrie financière et un système bancaire totalement dérégulé, lui-même dopé à la spéculation, de maintenir en vie un mode de développement qui finalement touche ses limites. Il y a des limites sociales à cela, et on voit ici une zone euro qui n'a pas mis en place, par exemple, de politique économique, budgétaire et fiscale commune, se retrouve confrontée à des pays qui ont des niveaux de compétitivité extrêmement différents, avec une monnaie unique, donc sans capacité, comme on aurait fait dans le temps, de d'évaluer ou de réévaluer la monnaie pour ajuster les relations entre les pays. Et donc ça, c'était un enjeu de rigidité qui montre que la zone euro, finalement, a été hémiplégique. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des règles communes à travers le pacte de stabilité et de croissance. Que ces règles ont été, alors, par la France très largement piétinées, par l'Allemagne aussi, mais il y a un pays qui les a respectées, c'est l'Espagne. L'Espagne, juste avant l'éclatement de la bulle immobilière, était plutôt assez correctement en conformité avec le pacte de stabilité et de croissance. Ce qui montre qu'on ne peut pas éluder la question du contenu et du modèle du développement. C'est comme l'annonce, si vous voulez, en France, de l'augmentation de la croissance pendant ce premier trimestre. C'est une blague. Oui, ça a augmenté, mais pourquoi ça a augmenté? Parce qu'il y a eu un pic de froid et qu'on a consommé de l'énergie. Ça fait sens, tout ça, pour notre avenir? Et donc, oui, il faut faire des pare-feux. Oui, il faut très rapidement pouvoir réinstaller ces approches dans un cadre communautaire, c'est-à-dire démocratique, assis sur la codécision, exactement comme vous le disiez, et la participation en amont des parlementaires nationaux, non plus sommés de ratifier le dernier instrument, mécanisme inventé par Merkozy ou d'autres, pour parer, d'ailleurs ça s'appelle un pare-feu, hein, on ne peut pas mieux dire la limite de ces instruments. Il faut absolument retrouver de la capacité de débat et d'inclusion des questions extrêmement essentielles auxquelles on est confronté, c'est-à-dire quel développement dans les limites physiques de la planète sur laquelle nous vivons, quelle cohésion sociale alors même que s'accroissent drastiquement les injustices, quel système bancaire, quelle fiscalité plus juste. Éviter aussi que des banques qui ont été soutenues largement par nos efforts collectifs et publics puissent se retrouver finalement un an après à distribuer largement bonus et dividendes, alors même qu'elles sont, par leur pratique dérégulée et risquée, elles sont aussi responsables de la situation. Ça, ce sont des enjeux absolument essentiels qu'il va falloir adresser. Voilà. Et on ne peut pas attendre de réponse à ces questions-là dans les réunions au sommet et en urgence de nos chefs d'État. C'est vraiment du débat citoyen, démocratique, parlementaire, au niveau national, au niveau européen, qui doivent adresser maintenant les questions fondamentale.
Hélène Flautre, députée européenne Europe Écologie Les Verts, extrait du débat qui avait lieu lundi soir à Arras. Je vous disais au début de ce sujet, dommage que sur 2 heures de débat, la salle n'ait plus posé que 3 petites questions. Dommage parce que ces questions étaient intéressantes. Il y a eu une question donc sur le rapport entre la croissance et l'emploi, plus toujours évident. Et puis la question du rôle de la Banque Centrale Européenne. On écoute sur cette question la réponse de Mariano Fandos, qui est secrétaire confédéral CFDT.
Bon, on a compris à une époque où les banques centrales faisaient beaucoup de créations monétaires, ça a déclenché l'inflation qui finalement re-augmentait les taux d'intérêt. Et finalement, c'était un cercle vicieux qui se nourrissait, qui menait dans l'impasse. Donc que les banques soient indépendantes, ça paraît acquis aujourd'hui. Par contre, ce qu'il ne faut pas confondre avec le fait que les banques centrales puissent avoir un rôle de prêteur en dernier ressort. Et les banques centrales aux États-Unis ou au Royaume-Uni ont ce rôle. Et si effectivement les États-Unis ou le Royaume-Uni sont moins attaqués par la spéculation, alors que la situation est nettement moins bonne que globalement la zone euro, voire guère meilleure que la Grèce ou en tout cas que l'Espagne ou le Portugal. C'est aussi pour ça. La Banque Centrale Européenne a quand même fait ça d'une manière un peu déguisée, puisqu'elle n'avait pas le droit de le faire directement, avec l'intervention sur les marchés, avec la création du FESF, etc. Donc il y a eu quand même un dérivatif qui a été trouvé. Oui, autre chose sur le modèle allemand dont on a beaucoup parlé. Une des caractéristiques du modèle allemand, c'est la qualité du dialogue social et le fait que, bon, ce qu'ils appellent la co-détermination, le fait que les salariés ont leur mot à dire dans les conseils d'entreprise, les conseils d'administration des entreprises, ce qui aide quand même beaucoup à ce que les entreprises se préoccupent de l'avenir industriel et pas du rôle des actionnaires. Donc ça, c'est un point important. Alors, il n'est pas forcément extrapolable tel quel en France, mais en tout cas, il faut y réfléchir pour qu'on puisse refaire une effectivement des entreprises qui pensent plus à l'emploi et au développement qu'aux aspects financiers. Et donc, sinon, en mot de conclusion sur ce dilemme rigueur croissance emploi, effectivement, il faut que l'Europe cesse de faire ce qu'elle fait en Grèce, en Espagne, au Portugal, c'est-à-dire uniquement des politiques d'austérité sans avoir une initiative de croissance, on l'a dit tout à l'heure, mais autant nous défendons, nous aussi au niveau de la CFDT, on l'a dit depuis longtemps, bien avant 2007 déjà, que les comptes publics en France étaient, qu'il fallait redresser les comptes publics en France. On aurait mieux fait de le faire à une époque où il y avait de la croissance, parce que là on aurait pu le faire facilement. Aujourd'hui c'est contracyclique, c'est procyclique, pardon, ça accélère le chômage, donc aujourd'hui il faudrait le faire beaucoup plus en douceur et en tout cas le compléter par une initiative de croissance, et donc dans ce pilotage qui puisse intégrer l'économique, le social et l'environnemental, je voudrais rappeler là aussi Jacques Delors, je décidément ce soir je le cite beaucoup, mais bon, il a été à la CFDT, ça a été un dirigeant de la CFDT aussi, donc c'est normal. Il a une belle formule sur l'Europe, l'idée qu'il défend de l'Europe, c'est la concurrence qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Et en fait, dans ce qu'on a fait depuis 10 ans, c'est uniquement le premier volet. On n'a pas fait les deux autres. Donc, enfin bon, je caricature un peu, mais globalement, il y a besoin de renforcer les deux suivants pour qu'on puisse tenir l'ensemble européen.
Mariano Fondos, secrétaire confédéral CFDT, Service International Europe. Enregistrement réalisé lors du débat qui se tenait lundi soir à Arras à l'Atria sur la question euro, dette, croissance, emploi, quelles solutions européennes. Ce débat était organisé par le mouvement européen Pas-de-Calais.